La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble sur Radio Grenouille pour une émission de La parole au travail. Une émission en partenariat avec Le Ravi, le journal qui ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, écoutons ensemble un ouvrier de Skopti. Skopti est une entreprise particulière. C'est une coopérative produisant des infusions et des thés, née de la reprise par ses salariés et par une lutte de 1336 jours de leur usine. Unilever, voulant délocaliser sa production en Belgique et en Pologne, après l'avoir déjà délocalisée une première fois, du Havre à Gemenos. Cet ouvrier ne travaille donc pas dans une entreprise classique, dans une entreprise appartenant à des actionnaires. Il travaille dans une SCOP, une société coopérative de production. Dans une SCOP, le pouvoir n'appartient pas au conseil d'administration où le pouvoir est distribué en fonction de la part possédée d'actions. Le pouvoir est distribué en fonction du travail. Tout salarié travaillant a une voix au conseil de surveillance ou lors de l'élection des membres du conseil d'administration. Et voilà notre question. Que devient le travail et le rapport au travail quand les salariés possèdent leur entreprise? Évidemment, cette coopérative n'est pas isolée de son environnement. S'ils se sont libérés des actionnaires, les coopérateurs de Skopti ne sont libérés ni du marché, ni des coûts de financement de l'activité. Mais, dans ce cadre particulier, quelles sont les décisions que ces salariés, qui n'ont normalement pas voix au chapitre, ont pu prendre? Quelles peuvent être les nouvelles formes d'organisation, de répartition des salaires et de division du travail? Que décident de produire ces coopérateurs? Quelles sont les qualités du produit de leur travail qu'ils veulent porter? Écoutons ensemble le plaisir de la parole retrouvée de cet ouvrier coopérateur. Essayons de sentir le parfum revenu du tilleul de la menthe, du citron et du thym. Écoutons une parole libérée des actionnaires et de la hiérarchie. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
Tu arrives à un moment, c'est simple. Je vais donner un exemple. En 2014, on était à un moment où on était bas moralement, on était fatigué moralement dans la lutte. Et donc on a le patron du Unilever qui avait dit aux délégués on va faire passer les gars devant les prud'hommes, un par un, on va leur proposer du pognon et vous allez avoir des surprises. Donc les 76, on passe un par un. Et déjà, nous on se regardait, parce que tu sais, quand ça ne va pas, tu te refères à l'ancien, tu as les réflexes qui viennent. Et les réflexes, c'était Unilever. Donc tu avais des petits groupes, en fonction de là où ils travaillaient avant, qui se créaient, tu vois. Et donc tu te regardes comme ça, tu te dis, putain, lui il va signer, quoi. Lui il va signer, il va partir. Mais en même temps, tu ne peux pas lui en vouloir. Parce que 4 ans de lutte, il y a eu de la casse. À un moment, le mec, il arrive au bout, quoi. Je veux dire, oh, c'est énorme, quoi. On a subi quand même pas mal de trucs. Et donc, tu arrives à un moment, tu dis, non, mais tu peux pas lui en vouloir. Hein. Et donc, on passe un par un. Donc, tu passes, tu as ton avocat, tu as le juge des prud'hommes, tu as l'avocat de Unilever, tu as le mec, la costard, cravate, avec son chéquier et tout. Ben, monsieur Baroni, ben voilà, écoutez, je vais vous faire un chèque de 90 000 euros, vous me signez un papier, puis on se quitte, bon copain. Ah ben non, moi, un copain avec vous, je ne le serai jamais, hein. C'est pas possible. Et comme ça, j'ai quitté le bureau, et on partait comme ça, tous au fur et à mesure. Et donc, on se retrouve dans la rue, mais il y en a qui sont partis. Tu vois, entre-temps, des copains qui sont partis, on s'est dit, oh putain, s'il part, c'est qu'il a signé, quoi. Et là, il est sorti, l'avocat, notre avocat, il était, quand j'en parle, tu vois, il avait les larmes, quoi. Il nous a dit, les gars, il n'y a personne qui a signé. Alors ça, je peux te dire, ça nous a reboosté, ça. Il n'y a personne qui avait signé. Pas un. Et à ce moment-là, on était vraiment dans une position où on était très mal. Hein. Psychologiquement, on est très, très mal, mais tu as un moment donné, tu dis, non, mais vous voulez nous crever, mais vous n'y arriverez pas, quoi. Vous n'y arriverez pas. Ou alors, il faut vraiment nous crever. On ira jusqu'au bout. Et parce qu'on ne veut pas voir dans les journaux Monsieur Nilever dit, oh là, ouais, je vous l'avais dit. Non, non, les ouvriers, pas de venir patron, ils ont ta merde, donc on ira jusqu'au bout. Alors, le boulot de l'opérateur, c'est un, d'alimenter la machine en consommables. Donc, vous voyez ici les boîtes, les enveloppes, les filtres, les étiquettes. Ensuite, ça va être de faire des contrôles qualité sur les boîtes et les sachets. On fait ça toutes les demi-heures, on contrôle les sachets et les boîtes. On prend la boîte entière et on la décortique, on ouvre le sachet, on regarde si l'enveloppe... elle est bien étanche, parce que là on est sur des sachets fraîcheurs. Ensuite on a des contrôles, voilà, que ça tienne bien, quoi. On ouvre le sachet et on regarde si le pli il est bien fermé, afin que le produit, quand il va dans la tasse... Alors lui, c'est un technicien. Okay. Donc c'est le copain qu'on va venir embêter quand une panne parce que de machine est trop grosse et que nous, on n'a pas la connaissance pour réagir dessus. On s'occupe des petites pannes, mais qu'il y a des grosses pannes, on appelle les techniciens qui vont dépanner la machine, la démonter, etc., etc.
Coup de projecteur à présent sur les Fralib, ces anciens employés d'une usine de thé située près de Marseille. 3 ans après l'arrêt de la production, ils occupent toujours le site industriel. Entre imbroglio juridique et volonté de relancer l'usine, c'est une drôle de vie pour ces hommes et ces femmes décidés à ne rien lâcher.
La machine est bichonnée comme si l'usine fonctionnait encore. Chaque semaine, Jean-Marc Fautras l'entretient en vue d'un éventuel redémarrage.
Ça nous fait du bien, au bout de 3 ans, on voit qu'on a les machines encore, on les entretient. Ça nous fait du bien un peu de retourner un peu sur les machines.
Le reste de l'usine est désert. Pas un sachet de thé n'est sorti d'ici depuis 3 ans, depuis qu'Unilever a décidé de fermer l'usine de Gemenos pour produire en Belgique et en Pologne. Sur 182 salariés au départ, une centaine a accepté un gros chèque pour partir. Il en reste 77, irréductibles, qui occupent l'usine depuis 1024 jours. Ils refusent la délocalisation.
On va donner notre production en Pologne pour gagner plus. Et nous, on va se laisser faire, on va baisser les bras. Mais nos enfants et nos petits-enfants, mais ils vont devenir quoi? Si on laisse faire, non, moi ça me met la haine. Et je crois que maintenant, c'est la colère qui me maintient.
Alors, depuis 3 ans, la vie s'organise. Les repas sont servis tous les jours grâce à une entreprise locale.
Il y a 3 ans, si on nous avait dit on sera encore là dans 3 ans, dans la lutte, on n'y aura pas cru. Aujourd'hui, on est là et on s'est rendu compte qu'on était capable de beaucoup de choses.
Capable notamment de faire annuler 3 plans sociaux successifs par la justice. Mais du coup, ces ouvriers sont dans les limbes juridiques. Ni salariés, ni au chômage, ils ne sont plus payés depuis 3 mois. Ils ont pu récupérer les machines pour 1 euro symbolique, mais n'ont trouvé jusqu'à présent aucun client.
Ce qui change après, c'est surtout le mental, c'est la mentalité qui change parce qu'on est, coopérateur. Donc il faut qu'on s'approprie la coopérative, c'est-à-dire qu'on est en même temps on a la casquette salarié, mais en même temps on a la casquette, je ne vais pas dire patron parce que ça ne me plaît pas, mais avant, dans une entreprise normale, quand tu as la production, que tu es un ouvrier, un opérateur à la production, tu as le droit de fermer ta gueule. Tu vois ? Nous, chaque homme a une voix. Ce qui fait, tu es dans le processus de la coopérative. Mais on est à l'horizontale. On n'a pas de lien, on n'a pas d'ordre, si tu veux. De toute façon, les ordres, on les supporte plus. Hein. On s'est battu depuis 2010 contre ça. Donc on n'a personne qui vient nous mettre la pression. La pression, c'est nous-mêmes qu'on se la met, parce que c'est nos produits, c'est notre production. Mais on n'a personne, il faut faire ça. Non. Ça ne marche pas. C'est voilà, il y a ça à faire, comment on s'organise. Et donc on arrive, on a un planning, on regarde où on va, on gère notre truc. Voilà. Si tu veux, tu as une direction, mais tu n'as pas les mêmes relations qu'on avait avant avec notre directeur. D'ailleurs, c'est même pas C'est un coopérateur qui a une fonction de direction. Vous voyez, la différence, elle est là. On est avant tout des coopérateurs. Après, on a une fonction différente. C'est-à-dire que sur le mode coopérateur, on est tous à l'horizontale, à l'égalité. Dans l'expectative, dans une coopérative, tu as une homme, une voix, tu prends part à toutes les décisions. Sauf qu'en fonction du temps de la réponse, vu qu'on est 58, c'est assez difficile, et puis on a besoin de produire, de réunir les 58 coopérateurs. Donc, on a élu au démarrage de la SCOP un conseil d'administration. Ils sont 12, donc ils vont prendre. C'est plus facile de réunir 12 que 58. Et ensuite, tu as un comité de pilotage qui sont 3, parce qu'on n'a pas voulu une tête, on en a voulu 3. Et en fonction du degré de l'urgence, c'est eux qui vont répondre. Ensuite, on fait descendre l'information dans une assemblée générale. Et là, la coopérative, les coopérateurs valident ou pas la décision qui a été prise. Et c'est ça aussi le boulot du coopérateur, c'est de chercher les informations quand ils ne descendent pas assez vite. Ben c'est parce que ben, des fois, on a tous la tête dans le guidon et « Oh les gars, on va un peu se recentrer, donc il s'est passé ça, on veut savoir si c'est OK. » Donc c'est ton boulot de coopérateur d'aller chercher les informations, de parler en AG des problèmes, de ce qui va, de ce qui ne va pas, etc., etc. Et de ne pas être en attente, d'être là, oh, moi j'attends qu'on me dise où je vais et j'irai. Non, des fois tu es à une machine et puis la machine est en panne, il va y avoir une grosse intervention des techniciens, ben, tu n'es pas là à attendre, ben, tu vas aller voir dans un endroit où il y a du boulot à froid. Et donc c'est comme ça que ça marche, c'est des échanges constamment d'échanges. Il ne faut pas qu'on nous donne des ordres, mais il ne faut pas aussi laisser l'habitude de donner des ordres. Il ne faut pas revenir dans le vieux schéma. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben, voilà, c'est le quand tu as besoin de quelque chose, tu viens me voir, tu me l'expliques, parce que je suis coopérateur et que je ne suis pas un ouvrier. Alors qu'avant, on te disait, tu fais ça, tu fermes ta gueule. Là, on va t'expliquer, voilà, ben, il faut le faire comme ça parce qu'il y a tel ou tel impératif. Et nous, par exemple, quand on était à Fralib, passé un moment, donc ils avaient un concept chinois, ça s'appelait YYY Analyzing, 5S, TPM, tout ça. Et en fait, on s'occupait beaucoup de l'usine. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je travaillais aux matières premières et même la peinture, c'est nous qu'on la faisait de l'usine. Ce qui fait, on s'est approprié l'usine. Et ça, ils ont compris que c'était pas bien. Parce qu'à partir du moment où tu t'appropries un truc, quand on veut te l'enlever des mains, tu vas galérer. Donc, quand il est venu le nouveau directeur pour fermer l'usine, il est venu vers les années 2007-2008 pour la fermer, pour annoncer la fermeture en 2010. Ben, tout ça s'est arrêté et tout est passé par d'autres sociétés, par des prestataires. Ce qui fait, ben, tu augmentes le coût, d'une part. Et puis, deuxièmement, les ouvriers ben, ne s'approprient plus l'usine parce que ici, c'est nous qu'on faisait tout. Tout. Alors, les rémunérations, donc ça a été de grosses AG. D'abord, ça a été de grosses AG, puisqu'on parle de politique salariale. Et c'est pareil, c'est en AG où chacun dit la sienne. Et de là, on a sorti trois courants. Il y avait un courant qui disait on veut garder les rémunérations du Unilever. Un deuxième courant qui disait on veut le salaire unique pour tout le monde. Et un autre courant qui disait on veut un salaire différentiel, mais pas celui de Unilever. Donc de là, on a fait des commissions où on a calculé avec tel salaire, avec la trésorerie qu'on avait, jusqu'où on pourrait aller, etc., etc. Il en est sorti que le salaire sur Unilever, ce n'était pas possible. Et c'est normal, quand tu crées une entreprise, tu ne peux pas te mettre des salaires de ministre. Parce qu'on avait de bons salaires à Unilever. Mais si on avait de bons salaires à Unilever, c'est parce qu'on s'est beaucoup battu. Parce que les patrons, ils ne te font pas de cadeaux. Nous, quand on s'est mis en lutte, dans la zone, on n'était pas trop aimés. Ouais, putain, les mecs, ils gagnent plein de ronds, ils se mettent en lutte. Ouais, mais du coup, si on gagne des ronds, c'est parce qu'on s'est battu, quoi. Si toi, tu te laisses plumer, tu n'arriveras jamais à rien, quoi. Donc, on avait le bon salaire. Moi, par exemple, mon salaire annuel en tant qu'opérateur, je travaillais 2 jours par semaine puisque j'étais en week-end. J'étais à 2002, 2003. Donc, ça va, quoi. En travaillant 2 jours par semaine, c'est sympa. On a fait ces 2 commissions, salaire unique et salaire différentiel. Et bien, après, c'est la communication. Donc, ça a duré beaucoup de temps de communication. Et donc, on a trouvé un compromis. On a sorti des salaires différentiels par catégorie, mais avec très peu de différence. Donc, c'est-à-dire que je suis à 1600 euros. Le technicien va être à 1670. Et le directeur, il est à 1890. La cadre, par exemple, l'ancienne cadre, elle était à 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois. Là, elle est à 1670.
Sur écran géant, dans leur usine, les extra-libres dévoilent sous les applaudissements leur marque. 1336, un moment d'intense émotion. 1336, c'est le nombre de jours de lutte acharnée passés dans ces locaux, face aux géants Unilever, un combat pour créer leur coopérative et leur marque. La joie et la fierté de ces hommes et ces femmes est à la hauteur des sacrifices et des coups bas qu'ils ont subis.
Un long passage d'une vie quand même, parce que pratiquement 5 ans. Et tout ce qui a engendré les sacrifices, les pertes humaines au mieux.
1336, ce sont ces thés et ces infusions fabriquées par 58 coopérateurs. Toutes les décisions se prennent et se prendront ensemble. Il n'est pas question ici de faire des profits.
On n'a pas l'intention de devenir milliardaire. Ce n'est pas nos rêves, ça ne fait pas partie de nos rêves. Nous, nos rêves, c'est de faire fonctionner cette entreprise. On espère pouvoir créer encore plus d'emplois.
Et l'aventure ne fait que commencer et il n'y aura pas de vacances pour les coopérateurs car l'unité de production doit tourner à plein régime cet été pour fournir de la grande surface aux magasins spécialisés CT et ses infusions.
Et techniquement, on aurait pu et ça serait sûrement plus rentable, mais voilà, nous, on n'est pas parti sur ça. On n'est pas parti pour refaire pareil. On s'est dit, quant à faire, si tu reprends l'usine, autant la reprendre avec ce qui te tient à cœur. Et nous, ce qui nous tenait à cœur, ben, c'était ça, c'est de revenir à des produits naturels parce qu'on en avait marre de ces produits, travailler avec ces produits synthétiques, tout simplement. C'est de refaire travailler, de relancer la filière bio, d'être fier de ce qu'on fait. Sous Fralib, moi j'étais aromatiseur. Quand je suis rentré en 1995, c'est-à-dire j'aromatisais le thé. À l'époque, en 1995, j'avais un thé d'assez bonne qualité et des arômes naturels. C'était de la cuisine. Tu créais un produit. Dans les années, à partir des années 98-99, on est passé au tout synthétique, à l'arôme chimique, à l'arôme synthétique. Tu es passé de cuisinier à un gars qui est devant une bétonnière. Tu prends du thé, tu prends des arômes, tu appuies sur le bouton, ça mélange. Tu perds un savoir-faire, déjà, tu perds le plaisir parce qu'on crée, et en plus, en bout de ligne, tu sors, c'est des arômes synthétiques. Quoi. C'était de la cuisine, aromatiser du thé, c'était vraiment de la cuisine. On avait des recettes, hein, la ligne était automatisée, on avait des recettes, mais en fonction de l'hydrométrie de l'air, en fonction aussi de comment a réagi le produit pendant le trajet, tu avais plusieurs opérations à faire pour ressortir à la fin un produit linéaire. Donc on avait des contrôles olfactifs, des contrôles tactiles, des contrôles visuels du produit. On avait aussi des contrôles après un peu plus techniques, granulométrie, puis des contrôles par le labo. Mais voilà, tu avais une fierté parce que tes produits, ils étaient bons quand même. Parce que c'était naturel. Quand tu es passé au truc synthétique, c'est pas bon, quoi. Je suis désolé, quoi. Déjà, quand j'étais en aromatisation, les arômes naturels, c'est-à-dire qu'on avait des gousses de vanille, on avait des zestes de citron, on avait du jus de citron, on avait des pétales de fleurs, on avait des épices. Tu passes de ça à des cartons normalisés, des billes blanches ou translucides. Toi-même, ça ne sent plus rien parce que c'est des billes qui vont dégager leur saveur au contact de l'eau chaude. Dans des cartons normalisés avec l'arbre mort et le poisson à l'envers. Je veux dire, oh les gars, il n'y a pas un souci là. Parce que nous, notre camomille à nous, la camomille, une infusion camomille, ça va être un mélange de camomille matricaire et de camomille fleur. Alors évidemment, Certains, ils vont te mettre plus, je crois que c'est la matricaire, je ne veux pas dire de conneries, plus de matricaire que de fleurs parce qu'elle est moins chère, mais elle a moins de goût. Donc la camomille, elle va avoir un petit goût amer. Nous, on n'est pas sur ça. Notre camomille, tu la goûtes, elle a un petit goût de miel. Parce que, ben, on a fait la bonne et on ne regarde pas le prix des produits qu'on achète. Voilà. Le truc, c'est un peu plus cher que les produits pourris, d'accord. Mais après aussi, nous, comme on a fait le pari, on n'est pas là pour se gaver. On n'a plus d'actionnaires. On peut acheter des produits de qualité pour produire des produits de qualité au prix juste aussi. Ça fait partie d'une raison de la lutte. Parce que, on ne s'est pas contenté d'être devant une machine et d'y mettre les emballages. On l'a fait vivre, cette usine. On l'a fait vivre et on leur a fait gagner beaucoup de pognon. Donc, tu as ça. Et puis, tu as ça aussi. Puis, tu as le fait que, ici, il est venu en 98 des copains du Havre, puisqu'ils avaient fermé l'usine du Havre. Et une fermeture d'usine. Parce que souvent, à la télé, on entend un plan social, un plan de sauvegarde de l'emploi. Quand ils ferment des usines, eux, ils appellent ça un plan de sauvegarde de l'emploi. Comme ça, ça ne fait pas la peur à la ménagère de moins de 50 ans. C'est là, ben, ça va, ils ont sauvegardé l'emploi. Sauf que quand tu fermes une usine, tu as un tiers qui va s'en sortir, tu as un tiers qui va être dans la précarité, hein, le saisonnier, intérim, et tu as un tiers qui, eux, ils ne vont pas s'en sortir. Et ça, on l'a touché du doigt, puisque les copains du Havre, quand ils remontaient chez eux, ben, quand ils revenaient ici avec la gueule de trois pieds parce qu'il y a un copain à eux qu'ils ont travaillé pendant 15 ans, ben, le mec il s'est flingué, ou les divorces, ou l'autre il a sombré dans l'alcool, c'est la réalité. Il y a des catastrophes humaines derrière les fermetures de l'usine. Alors on s'est dit, voilà, c'est la règle des trois tiers. Donc on est trois copains, on a travaillé ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On tire à la courte paille, c'est toi qui vas crever, et puis moi je vais m'en sortir, puis toi tu vas galérer toute ta vie, ou alors on essaie ensemble de se battre. Nous, on a fait le choix de se battre ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de ne pas perdre notre emploi, de se battre pour nos emplois, puisque l'usine, c'est nous qu'on la faisait marcher. En fait, pendant la lutte, c'était un peu la prémisse de la coopérative, parce qu'on faisait beaucoup de réunions, et puis chacun, on n'a pas suivi un gourou, quoi. On n'était pas là, qu'est-ce qu'il faut faire, chef? Non. C'est chacun parler, chacun, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à gagner, justement. C'était une lutte collective, à utiliser l'intelligence collective. Et donc, je dis, attends, mais moi, si on veut créer une usine, j'aimerais bien revenir aux arômes naturels. Ah ouais, putain. Et mais au fur et à mesure, on s'est construit sur ça. Si on voulait créer quelque chose, c'est pour revenir à quelque chose de bon. Ben la lutte, ça m'a fait voyager de partout. Je suis allé en Grèce, je suis allé en Italie, je suis allé à Cuba. Yep. Et de partout en France. Et puis, on a rencontré, on est allé de partout. Hein. On a rencontré le monde paysan, le monde associatif. Et nous, ce qu'il y a, c'est que notre projet, il a fédéré beaucoup de personnes parce qu'on touche à beaucoup de choses. Mais souvent, nous le dit, ouais, parce que vous... Et nous, pour nous, c'est normal, quoi. Pour nous, on est tous impliqués les uns dans les autres. Voilà, nous, on est ouvriers, on va dire. On est ouvriers, donc généralement, tu as les stéréotypes. En plus, c'est ouvrier CGT, donc les stéréotypes étaient encore plus forts. Mais on sait, quand on parlait des produits naturels, ben pour nous, c'est naturel. Mais on va te dire, tu touches à l'écologie. Mais pour nous, voilà, c'est normal. Les arômes naturels aussi, comme plus le truc synthétique. Donc, tu touches comme ça à plusieurs pans de la société qui, généralement, tu n'as pas d'interaction parce que tu as des a priori. Et c'est comme ça qu'on est allé de partout, qu'on a rencontré beaucoup de gens et tu t'enrichis en même temps de ce qu'ils te proposent et de ce qu'ils te disent, quoi. On a fait des actions avec la Confédération des paysannes, avec des associations, on a rencontré les zadistes Notre-Dame-des-Landes, enfin, c'est les Grecs de Yomi, les Italiens de Rimaflou, enfin, c'est énorme. Ouais. Non, on ne part pas 58 en Grèce, on est, y a un noyau. Il y a un noyau de personnes qui vont à droite et à gauche. Et tout comme ben le copain tout à l'heure qui me disait « Oh, blablabla bla, », bla, lui, il ne va pas aller. Il ne va pas aller à droite et à gauche, mais il va rester dans l'usine. Voilà. Moi, je préfère aller à droite et à gauche et partager. Et c'est comme ça que... Parce que moi, je suis opérateur, je suis aux machines. Donc, je dis « Bon, les gars, il faut que je prépare le camion parce qu'il faut que j'aille à l'initiative ». Ben, il faut qu'il prenne ma machine. Ben, il n'y a pas de souci. Il me dit, ouais, ben, vas-y, je prends ta machine. En plus, hein, on sait que c'est complémentaire. Voilà. Puis après, ils m'ont vu travailler sur machine, donc ils savent comment je suis à l'extérieur. Et puis, c'est le plaisir de quand tu reviens, de leur dire, ben, les gars, voilà, on m'a dit ça comme retour, j'ai vendu tant de boîtes, les gens ils sont contents, etc. Et ça, donc, la force qui me transmettent, je la partage avec les copains. Et parce que c'est quand on te parle des produits, sur la qualité des produits, etc., ben là, tu es fier, quoi. Donc, tu leur dis, oh, les gars, vous savez, tac. Et c'est comme ça, j'ai amené un copain à faire, deux copains à faire refaire des initiatives, un copain à faire des initiatives, il n'en avait jamais fait. Et c'est quelqu'un qui dit, ah, moi, je ne parle pas, je n'aime pas parler, je ne parle pas. Écoute, tu es dans le film de Clara, il y a la diffusion du film. Oh, tu vas voir ta tête sur grand écran, t'imagines tes enfants et ta femme. Elle vient, donc il vient. Mais il me dit, mais par contre, je ne vais pas à la tribune. Je dis, non, mais t'inquiète, tu resteras assis. Donc il s'assoit devant moi, il se passe le film et tout. Après, on m'appelle pour aller débattre. Et en passant, j'ai dit, bon, Nasser, tu viens avec moi? Et là, il y avait sa femme et ses enfants, donc il ne pouvait pas me dire non. Donc il est descendu à la tribune avec moi. Et j'ai commencé à parler. Et parce qu'il me dit, non, moi, je ne parle pas. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, je vais passer le micro. Je lui ai dit, maintenant, c'est à toi. Et il s'est mis à parler, puis il s'est régalé. Parce que là, quand il me dit, j'ai rien à raconter, je lui ai dit, mais tu as 4 ans de lutte à raconter. Je lui ai dit, c'est énorme, tu vois. Tout ton ressenti, tout ce que tu as vécu, toute ton expérience, qui même si on a fait la même lutte, ce n'est pas la même expérience. Parce que ben, c'est d'autres familles, d'autres endroits, etc., etc. Et il a été énormément touché par le retour des personnes, quand ils parlaient des produits, etc., la qualité de produits sur plein de trucs. Et donc après, il est venu avec moi sur deux autres initiatives pour tenir un stand où on est invité par des camarades de la CGT dans des usines. Et là aussi, c'est énorme, quoi. Voilà, là on marche un peu à l'économie, tu vois, il fait un peu froid dans l'usine parce que ben on a au moment où il fallait s'occuper de la chaufferie, ben on n'avait pas la trésorerie, donc ben on s'en est pas occupé. Et donc c'est pour ça que là ça elle marche pas et donc quand il se les gèle, mais bon il sait pourquoi il se les gèle, quoi. Des fois entre nous on rigole, on s'est dit putain autant du lover. Moins que ça, on serait dehors avec les bidons, les drapeaux, les banderoles. Mais aujourd'hui, c'est pour nous qu'on travaille. Et on se couvre un peu plus, quoi. Voilà. Mais il n'y a personne qui nous l'impose. C'est nous qu'on s'impose les trucs. Donc, c'est ça la différence aussi. Parce que tu prends part au truc. Donc là, par exemple, là, vous avez le... Il est où? Ah, il est derrière. Il y avait le directeur.
Directeur ou président.
La parole au travail. Une série documentaire de Christophe Massot.